Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il était super, comme dit ma grand-mère. Il était superstitieux aussi, comme l'histoire l'a raconté, disant qu'il lui fallait à tout prix toucher le bossu rencontré, car la bosse offrait une besace pleine de chance. Stéphane Bern nous raconte un compositeur qui a appris à composer avec ses superstitions, le génie de la musique Claude Debussy.
Quand Debussy se couche, il prend soin de positionner ses pantoufles de manière à ce que leur pointe ne soit pas orientée vers le lit. Quand Debussy ouvre son courrier, il utilise le même petit poignard de jade pour toujours trancher d'abord le coin inférieur de l'enveloppe. Quand Debussy ouvre un colis, il défait un à un les nœuds, car tout arraché d'un coup porterait malheur. Quand Debussy voyage, il emmène systématiquement un presse-papier sculpté en forme de crapaud, sans lequel il considère impossible de se concentrer pour travailler. Quand Debussy croise un chat noir, il frissonne. S'il doit passer sous une échelle, il s'inquiète. Les superstitions, il les a toutes. Il écrit lui-même à son ami éditeur Jacques Durand que sa superstition égale celle d'un vieux corbeau. Claude Debussy a en effet multiplié les peurs irraisonnées et les rituels censés conjurer un potentiel mauvais sort. Pourtant, à découvrir la vie et l'œuvre de ce grand compositeur, on ne peut que s'étonner de cette adhésion à d'inexplicables traditions et croyances, tant penser, vivre et créer en dehors des cadres préétablis est une permanence dans l'existence du musicien. Dès ses études au Conservatoire de Paris, qu'il intègre à l'âge de 10 ans, en 1872, le jeune Claude Debussy fait montre d'un tempérament anticonformiste et indépendant. Il est très doué au piano, mais largement dissipé et quelque peu désinvolte face aux cadres imposés. Il faut dire qu'il n'a jamais été à l'école. Sa mère s'est occupée de son instruction à domicile, ce qui participe sûrement à son besoin d'autonomie. Surtout, Debussy fait preuve d'une sensibilité musicale qui ne correspond pas à celle que l'on veut lui inculquer. Il dira plus tard « L'étude de l'harmonie telle qu'on la pratique à l'école est bien la façon la plus solennellement ridicule d'assembler les sons ». Les éminents professeurs à qui il livre des exercices harmoniques jugent que Debussy fait des erreurs. Elles lui coûteront d'ailleurs parfois des prix et des bonnes places au classement. On lui reconnaît des aptitudes et une intelligence musicale, mais on cherche sans cesse à la brider. Debussy, lui, ne veut surtout pas l'être, bien au contraire. Il veut s'ouvrir à de nouvelles possibilités, et ses erreurs sont en réalité des audaces qui serviront de socle à sa création musicale. S'il est parfois incompris, il parvient tout de même à contenter l'académisme de son époque en obtenant le premier prix de Rome en 1884 avec la composition de sa cantate « L'enfant prodigue ». Cette prestigieuse récompense lui ouvre les portes de la non moins prestigieuse Villa Médicis à Rome. Mais Debussy ne se plaît guère dans la ville éternelle, goûte peu le bel canto de l'opéra italien. Il vit mal son exil et laisse un sentiment mitigé à ses pairs. Ainsi, un rapport de 1886 note qu'il semble se préoccuper uniquement de faire de l'étrange, du bizarre, de l'incompréhensible, de l'inexécutable. Incompris, il l'est, et le restera un moment, hors d'un petit cercle d'initiés. Pour l'instant, de retour en France, Debussy donne quelques leçons, accompagne des cours de chant, profite de son temps pour s'ébrouer dans la bohème parisienne et aiguiser sa singulière sensibilité. Il se mêle au milieu symboliste dans lequel les artistes s'éloignent du naturalisme et du positivisme ambiant pour se glisser dans des univers oniriques, mélancoliques, voire pessimistes, volontiers teintés d'ésotérisme. Il fréquente même à l'occasion le milieu occultiste de l'époque, ce qui nourrit certainement ses nombreuses superstitions. Claude Debussy rencontre beaucoup d'artistes et apprécie particulièrement les poètes. Il utilise en effet les vers d'auteurs qu'il affectionne pour ses mélodies, comme deux de Paul Verlaine. Et c'est justement en s'inspirant de la poésie que Debussy va connaître en 1894 son véritable premier succès avec Prélude à l'après-midi d'un faune, traduction musicale d'un long poème de Stéphane Mallarmé. Debussy utilise toutes les subtilités de l'orchestre pour suggérer des atmosphères, évoquer un monde poétique et les mille nuances de la nature. Lors de l'exposition universelle de 1889, Debussy avait découvert les musiques venues des lointaines Indonésie ou Indochine et s'était réjoui d'entendre des interprètes qui, selon ses mots, apprennent la musique aussi simplement qu'on apprend à respirer. Leur conservatoire, c'est le rythme éternel de la mer, le vent dans les feuilles et mille petits bruits qu'ils écoutent avec soin sans jamais regarder dans d'arbitraires traités. Ceci résume parfaitement la façon dont le compositeur envisage la musique. Il cherche à décrire des sensations plutôt que des sentiments. La mélodie ne s'élabore pas dans les contraintes du solfège, mais dans la volonté de transcrire des impressions, le plus souvent inspirées de la nature, dans des pièces aux titres évocateurs, tels « Jardin sous la pluie ». C'est pour cette raison que Debussy a souvent été qualifié de père de l'impressionnisme musical, appellation qu'il ne semblait pas valider mais qui illustre ses compositions. Le jeu de Debussy utilise d'ailleurs beaucoup la pédale forte qui, en laissant les cordes du piano vibrer, permet parfois de créer une impression de flou harmonique qui appuie la dimension évanescente de ses compositions. Debussy innove, ce qui trouble régulièrement son auditoire. Ainsi, la répétition générale de son unique opéra, Péléas et Mélisande, qui se tient en avril 1902 à l'Opéra Comique, donne lieu à une véritable petite bataille artistique. La jeunesse manifeste son enthousiasme au balcon, pendant que d'autres se gaussent d'un phrasé trop théâtral. Il est vrai que l'on n'est à l'époque pas habitué à comprendre les paroles.
Il y a d'innombrables étoiles. Je n'en ai jamais vu d'autant que ce soir. Mais la lune est encore sur la mer.
Le public est parfois circonspect face à des harmonies nouvelles, à une musique continue mais discrète dont il peine à identifier les thèmes et structures. Mais les représentations s'enchaînent avec succès. Debussy commence à être célèbre. Il se donne peu en concert, mais compose beaucoup d'œuvres et s'essaye à de surprenants mélanges instrumentaux, tels l'original sonate pour flûte, alto et harpe, en 1915. Sa production musicale est malheureusement interrompue en 1918 par sa mort prématurée à 55 ans, que ses innombrables superstitions n'ont pas réussi à conjurer. Mais il laisse un héritage immense. Les libertés qu'il s'est octroyées en s'affranchissant des codes inspireront de nombreux musiciens après lui. Ironique pour celui qui disait « Je ne révolutionne rien, je ne démolis rien, je vais tranquillement mon chemin, sans faire la moindre propagande pour mes idées. Je n'ai pas de disciples, je suis moi. »
Europe 1, historiquement vôtre.